Vous écoutez le balado de l'Association des écrivaines et écrivains québécois pour la jeunesse. Je suis Amélie Bibeault, auteure pour la jeunesse et présidente de l'AEQJ pour l'année 2021-2022. À chaque épisode, je rencontre deux écrivaines et écrivains, membres de l'AEQJ, pour qu'ils me présentent un de leurs livres. Nous aborderons ensemble certains sujets en lien avec la littérature jeunesse. Je vous invite à les découvrir avec moi. Dans cet épisode, je rencontre Isabelle Larouche qui nous racontera toute une épopée qui a mené à l'écriture de son livre « Les loups au ruban rouge », publié aux éditions du Soleil de minuit. Suivez-la de coup de joie à Saint-Eustache dans un récit fascinant qui allie le hockey et les Premières Nations. Mais d'abord, rencontrons ensemble Julie Brassard qui me parlera de sa série « Antise » coécrite avec Rachel Graveline. Comment écrire de l'horreur quand on est une peureuse? C'est ce que nous allons découvrir. Nous allons également parler de la coécriture et de ses méthodes de travail. Alors aujourd'hui, on ouvre le balado de l'AEQJ avec toute une invitée. C'est Julie Brassard. Julie Brassard qui fait partie du CA avec moi. Moi, je suis la présidente et elle s'occupe des communications. Alors, je suis vraiment, vraiment contente de la recevoir. Alors, Julie, bonjour.
Bonjour.
Je vais te faire une petite présentation, puis après ça, on va pouvoir poursuivre avec le roman dont tu veux nous parler aujourd'hui. Alors, Julie Brassard, elle est diplômée en technique d'intervention en loisirs, puis en gérance d'articles de l'École du show business. Julie a décidé de sortir du fond de ses tiroirs son premier manuscrit en 2016. C'était un roman pour adultes. Elle a fait de l'auto-édition avec La Roupie en mars 2017 et un second roman fantastique qui est publié par Béliveau Éditeur en juin 2019. Riche de cette expérience en co-écriture, et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on va, de ça qu'on va jaser aujourd'hui, ça va être vraiment intéressant. Julie s'est joint à Rachel Graveline pour écrire la série Antise, dont on va parler aujourd'hui, qui est son premier roman pour la jeunesse, pour les adolescents. Ça a été publié chez Victor et Anaïs cet automne. Et le tome 2 va sortir, ça va sortir cette semaine à peu près, là, dans les prochains jours, sinon il est déjà sorti au moment où vous écoutez ce balado. Et c'est une histoire de fantôme qui met de l'avant un jeune garçon de 13 ans qui s'appelle Xavier et il y a plein de surnaturels. Alors Julie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail là, de ce que c'est Antise?
Oui, d'abord et avant tout, Antise, c'est une série de livres qui met à l'avant-plan, comme tu l'as dit, Xavier, 13 ans, qui déjà est intéressé par tout ce qui est surnaturel, un petit peu, et, tu sais, tout ce qui est esprit fantôme. Il est déjà un admirateur du Tracker Spectral, qui est une émission en vogue sur YouTube. Là. Puis lui, c'est un fan assidu qui reçoit les magazines là, à tous les mois. Et ce jeune garçon emménage dans un... Il arrive de la grande ville, il emménage dans un village. Mais tu sais, un village où il n'y a que 666 habitants. Déjà, okay, ça oui. Sonne une cloche.
C'est du village.
On arrive, il y a le magasin général, il y a l'église, il y a tous les vieux bâtiments. Tu sais, c'est pas un village fantôme, mais c'est un village où on sent déjà une espèce d'énergie différente. Puis là, il arrive à sa demeure, la nouvelle maison qui a de l'air d'une maison victorienne. Qui elle aussi semble émaner quelques énergies étranges. Et là, le jeune garçon, ben, il emménage avec sa famille dans cette maison et il se met à ressentir des choses, à voir des choses, à entendre des choses dont lui seul reçoit ces interactions-là. Là, il arrive dans sa nouvelle école, il se met ami avec deux jeunes de la place, de son village. Et rapidement, ces jeunes-là l'informent qu'il y a des rumeurs. Sa maison serait hantée. Et de lui, déjà qui est allumé ben gros de savoir si oui ou non il y a des fantômes dans sa maison, ben, il part dans une espèce de quête pour découvrir la vérité derrière ces rumeurs-là.
Mais il y a déjà eu des manifestations au moment où il rencontre ses amis ou c'est à partir
de... Oui, il y a déjà eu quelques manifestations qui fait que quand il pose des questions, tu sais, quand les jeunes lui racontent quelques rumeurs, lui, il fait comme « Ah ouais, mais j'ai vu telle affaire, j'ai entendu telle chose. » Là, ça coordonne avec sais, ce qu'il a vécu dans sa maison coordonne avec les rumeurs. Fait que c'est là où que le trio de, se voit muni d'une quête de justement là, partir à la découverte de la vérité.
Donc ça, c'est une série qui s'adresse aux 13 ans et plus, je crois.
C'est un, on peut dire à partir de 14 ans, parce qu'on est dans l'épouvante. Alors,
à 15 ans, oui.
Oui, c'est ça. Donc, ouais, 14-15 ans. Je sais qu'il y a des jeunes de 13 ans qui l'ont lu, même de 11 ans. Tu sais, ça dépend toujours du niveau de lecture où le jeune est rendu. Mais voilà, faut aimer avoir quelques sensations, là.
C'est parce qu'en bas de 15 ans, les cauchemars pourraient avoir des cauchemars. Puis, le niveau épeurant est quand même assez présent. Moi, j'ai peur de le lire parce que j'ai peur d'avoir peur.
J'ai écrit certains passages en ayant peur, mais moi, quand j'écris, en tout cas, je suis dans mon sous-sol, puis là, j'ai la porte pas loin. Puis quand j'écris des passages un petit peu plus... attention élevée, là, souvent, je vais regarder la porte et je vais faire « OK, là, je pense que je vais me calmer un peu dans mon espèce d'imagination parce que là, je me fais peur à moi-même. » Puis c'est ça, c'est plutôt drôle. Là.
Comment tu fais pour sortir de cette peur-là, justement? Est-ce que tu écoutes la musique joyeuse? Y a-t-il une façon de faire?
Non, mais en fait... C'est pas si, ben moi je trouve pas ça si épeurant que ça, OK? Parce que j'ai des adultes qui l'ont lu, qui ont lu les deux, puis qui ont eu quelques frissons et qui ont eu peur. Puis j'en connais une, entre autres, dans ma famille, qui n'a même pas été capable de lire après le premier chapitre parce que ça lui a fait peur. Mais là, moi, je suis comme OK, attends, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui te fait peur dans tout ça. Mais moi, j'écoute pas de films d'horreur, OK? Je suis pas capable, j'ai trop peur.
Ouais,
mais mettons que je veux vraiment écouter quelque chose qui est un petit peu plus épeurant, ce que je fais, c'est que je ferme le son parce que le son, la musique, la trame sonore fait que les émotions embarquent, la chair de poule te court sur le bras, ton rythme cardiaque s'accélère, tu sais, c'est un tout, c'est pas juste des images, mais là quand tu lis, quand moi j'écris ou quand tu... en tout cas, je vais parler plus quand j'écris. Quand j'écris, je suis comme dans un film, mais le son est coupé. Et là, c'est moi qui est le maître d'orchestre dans le fond des personnages. C'est un peu comme si j'avais des pantins dans les mains, puis là, je décide si je m'en vais à droite ou à gauche.
Il y a un contrôle. Donc,
ça l'aide. Oui, j'ai un contrôle. Donc, j'ai le contrôle de dire, hey, là, ce bout-là, il était épeurant, mais je sais qu'elle est dans le coin, puis là, je l'ai enfermée, mettons, dans le miroir, elle ne pourra pas sortir au moins jusqu'à demain soir, quand je vais ressortir mon papier pour continuer à écrire.
Ah oui, OK. C'est bon.
J'ai réussi à me détacher comme ça, parce que sinon, je ne serais pas capable. Là.
Non. Non, quand tu ne sais pas, ben c'est ça. Fait que dans le fond, tu sais où tu t'en vas, fait que ça te permet.
Oui, c'est ça. Je connais aussi la fin. Je connais la fin. Je sais qu'il y a une solution qui s'en vient. Je sais que tel esprit va arriver telle chose avec lui qui va amener à une telle solution de l'énigme. Fait que ça fait que ça l'enlève du drame dans l'espèce d'épouvante qui est créée là, à travers
Mais le lecteur, mots. Lui, c'est pas. Fait qu'il est
Mais là, le lecteur, ouais, là, de ce que j'entends,
c'est pas,
le lecteur, lui, il a oublié de couper le son. Parce que là, lui, c'est ça. C'est ce qu'on me dit, c'est que ça fait quand même peur, surtout pour ceux qui sont plus sensibles à ça, évidemment. Il y en a d'autres qui pourraient en prendre, là, on s'entend. Tout le monde n'a pas le
ça
même.
Ça dépend de quoi on a peur aussi. Moi, les histoires de fantômes me font peur, mais tout ce qui a rapport avec des monstres comme ça, ça ne me fait pas peur. C'est tellement fantastique que moi, je n'ai pas peur du clown. J'y crois pas.
Non.
Fait que, tu sais, mais les fantômes, j'y crois. Fait que,
quand le plancher grince, La musique se met à partir tout seul, t'entends un bruit en haut, mais il n'y a personne supposément dans la maison avec toi. Tu sais, c'est toutes des... On réinvente pas l'histoire. Là. C'est une histoire classique de fantômes. Puis quand t'entends ou quand tu vois des tiroirs s'ouvrir tout seul puis des couteaux hors-volés, là, je vais loin un peu, là, c'est pas ça qui se passe. Mais tu sais, dans le sens que c'est les fantômes, c'est... Est-ce que ça se peut? Parce que là, j'ai entendu de quoi ou j'ai vu de quoi ou je pense avoir senti quelque chose. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Mais dans le livre, Xavier, lui, il les voit.
Ben, c'est ça.
Ça l'augmente le...
Oui,
vraiment. Ça augmente l'espèce d'effet d'épouvante, d'horreur, de tu sais, quand c'est ça, là, ça fait monter la tension.
Oui,
là.
Parce qu'il les voit. Puis là, en coécriture, on va aborder la coécriture parce que ben moi et Julie, on a la même co-auteure.
Oui.
Moi, c'est pour Mademoiselle Zombie et les Zombinettes. Puis Rachel Gravine écrit Monsieur Zombie et les Zombinots. Nous, c'est des histoires en parallèle. Mais on travaille ensemble, on monte notre histoire ensemble, mais on écrit chacune de nos histoires séparément. Puis après ça, on les lit puis on s'assure que tout correspond. Mais vous autres, vous écrivez chapitre par chapitre. Comment vous fonctionnez? Parce que c'est un seul livre avec, à quatre mains.
Oui, en fait. C'est ça. Alors, ce qu'on fait d'abord et avant tout, c'est qu'on installe l'histoire, on se donne les grandes lignes de d'où on part, qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe dans l'histoire, puis où on s'en va. C'est pour ça qu'on connaît la fin, vers où on s'en va. Après ça, on se sépare les chapitres. Alors, on y va avec le goût, parce qu'on sait à peu près qu'est-ce qu'il y a dans chaque chapitre. Fait que, « Hey, toi, ça te tente-tu d'écrire là-dessus? » Oui, OK, pars avec. « Ah, moi, je veux celui-là, il m'allume. Je veux prendre le chapitre 10. » Fait que là, on sépare comme ça le plus juste possible le nombre de chapitres en deux. Puis chacune part dans sa tête avec elle-même pour écrire ce qu'elle a à écrire, donc le premier jet, le rough. Une fois que ça, c'est fait, on s'échange nos chapitres. Donc, moi, je lis et je travaille tout ce que Rachel a fait et elle fait de même avec tout ce que moi, j'ai fait. Et là, on se commente, on se corrige, on se fait des suggestions, on ajoute du contenu. Donc, vraiment, on vient mixer nos deux styles, nos deux mélanges pour créer une seule histoire.
Ben, c'est ça ma question. Je me disais, comment vous faites pour que le style reste constant? Parce qu'on faut pas sentir le changement de ton non plus.
En fait,
de cette façon-là.
En fait, la plupart des gens nous disent, c'est le fun, on ne voit pas la différence.
Mm-hmm.
Puis, on s'est déjà fait dire par un éditeur dans une autre maison d'édition, « Ah, j'aurais aimé ça voir la différence dans les deux styles.
Oui? »
Okay. Fait que là, on s'est posé la question à savoir qu'est-ce qu'on faisait? Est-ce qu'on gardait vraiment un style uniforme ou est-ce que oui, on faisait des différences? Mais en fait, la question ne se posait pas finalement parce qu'on est trop pareil dans notre style d'écriture, dans notre façon de penser. Oui, mm-hmm. Rachel, elle a un français un petit peu plus riche que moi. Fait que des fois, mais moi, je suis là pour la ramener, des fois, dire, hey, là, je ne sais plus où tu es rendu, je ne te comprends pas, il faut que je sorte mon dictionnaire. Fait que là, oups, elle va faire attention, puis elle va essayer de mettre des mots plus simples. Puis moi, au contraire, mais moi, je suis plus simple, plus imagée, puis elle va m'aider à structurer mes images. Attention, je ne comprends pas ce que tu essaies de me montrer. Attends une minute, je vais rajouter du contenu pour mieux t'expliquer ce que je suis en train de te montrer, pour te faire vivre dans mon histoire. Fait que, tu sais, on a vraiment des forces qui viennent compléter les lacunes de l'autre. Puis en même temps, ben, notre style, vu qu'il est très, très semblable, ben, il s'équivaut, en fait.
Oui, ben c'est ça. C'est un peu pour ça, moi aussi, que j'avais choisi Rachel comme co-auteur quand on m'avait proposé les Zombinettes. Parce que j'avais lu certains de ses textes, puis je me disais, on se ressemble, tu sais. Puis je savais qu'on travaillait du même style. Fait que,
oui, c'est ça.
Puis je voulais pas qu'il y ait trop de différence entre les deux séries. Puis tu sais, c'est réussi parce que les gens savent pas. Souvent, ils m'attribuent les deux séries à moi ou ils attribuent les deux séries à elle. Là, on est comme tout le temps, non,
c'est ça.
c'est pas comme ça.
Mais tu sais, moi, je pense que c'est une belle réussite de garder une certaine uniformité, là, justement, dans le livre. Tu sais, à part son chum, à elle, là, qui connaît vraiment son style, lui, il a été capable de dire, cette phrase-là, c'est pas toi. Ce paragraphe-là, c'est pas toi. Parce qu'il sait qu'elle n'utiliserait pas ce genre de mots-là pour décrire des scènes. Mais sinon, il n'y a pas personne d'autre qui peut dire, là.
Ben non.
Puis, moi, je trouve ça le fun.
Ben oui. Puis, t'écris pour les adultes aussi.
Oui.
Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est différent pour toi d'écrire pour les adultes qu'écrire pour les enfants?
C'est sûr que moi, c'est plus ado. Fait que j'étais moins contrainte j'avais moins besoin de faire attention à ce que je voulais dire. Mais c'est certain que ce serait un beau défi d'écrire pour plus jeunes parce que justement, j'ai une tendance à mettre des choses un petit peu plus complexes. Même si j'écris dans une certaine simplicité, j'ai tendance à... C'est ça, à en mettre trop.
C'est tout un défi.
C'est un beau défi.
J'entends souvent les gens qui croient qu'écrire pour les jeunes, c'est plus facile, alors qu'à mon avis, c'est plus l'enfant est jeune, plus c'est difficile.
Exact. Ça serait un beau défi. Je ne dis pas non. Un jour, j'aimerais ça relever ce défi-là. Mais pour l'instant, j'aime bien ado, jeune adulte, adulte.
Puis écrire toute seule ou toujours en
Ben
coécriture?
oui, j'ai commencé à
OK.
écrire toute seule, mais j'ai tellement de plaisir à écrire à deux. C'est tellement le fun, c'est tellement enrichissant, gratifiant, plaisant. Mêler là, tous les mots, là, je trippe à travailler en équipe. Alors, moi, j'aurais le goût de me lancer un nouveau défi en coécriture. Après la série Antise, là, j'aimerais ça
OK.
plonger dans un autre univers, peut-être avec une autre auteure. Tu sais, j'aime vraiment
Pour
ça.
voir
Puis ça
des façons de travailler différentes aussi.
oui, puis ça me permet de grandir à chaque fois.
Oui. D'évoluer, d'apprendre les techniques d'écriture d'une autre personne.
Oui,
Ou,
c'est ça.
parce qu'on ne travaille pas tous et toutes de la même façon. Oh non.
Non, on n'a pas
Oh,
toutes les mêmes patois d'écriture. On n'a pas tous la même
Elle,
façon de
là.
voir les choses.
Ça, c'est vrai.
Fait que, c'est le fun de se parler de nos visions puis de se rendre compte que l'autre, elle ne voit vraiment pas ce que tu es rendu. Puis là, il faut que tu y expliques, il faut que tu fasses des dessins, il faut que tu te mettes à gesticuler pour dire « Non, non, je suis là, là, la porte est là-bas, là! » C'est tellement le fun, c'est tellement plaisant, c'est ça.
J'aurais peut-être une petite dernière question avant de terminer. Là, vous séparez les chapitres comme ça, mais quand vous écrivez, est-ce que vous écrivez de façon chronologique ou si vous y allez, tu sais, mettons, le chapitre 10 m'interpelle, je vais écrire le chapitre 10, puis même si les chapitres 7 et 8 ne sont pas écrits, ou, parce que moi, je
On
fonctionne
y
comme ça, là,
va,
je sais que
ouais.
je suis assez bizarre là, là-dedans, ma façon de
Ben,
faire.
moi,
Là.
j'ai un style très chronologique, mais vu qu'on se partage des chapitres, effectivement, ça se peut que je travaille le chapitre 12, 13, 14, tandis que Rachel travaille le 7, 8, 9. Alors, tu sais, il faut vraiment, c'est sûr que des fois, si elle a travaillé des chapitres avant moi, ben, je lui envoie, puis je dis, ben là, il faut que tu checkes mon entrée puis ma sortie. Fait que là, elle va juste comme vérifier l'entrée du prochain chapitre pour être sûre que ça coule puis que ça suive. Mais moi, dire qu'on est forte parce qu'on ça se fait assez naturellement.
C'est vrai. Puis il n'y a pas trop de modifications à faire dans les
Non.
chapitres. C'est comme si vous vous suivez
On
bien.
est vraiment
Puis...
comme. Puis moi, je suis très forte dans la. Parce que quand tu écris à deux, il faut que tu sois capable de faire des concessions, hein?
Ah oui.
Comme
Ah
la
oui.
base. Fait que moi, je suis très forte là-dedans. Moi, je suis comme. Je me soutiens pas bien, bien. Puis j'étais déjà une fan de Rachel Graveline dans l'ensemble pour la personne qu'elle est et ce qu'elle écrit. Fait que moi, tout ce qu'elle écrit, je trouve ça bon. Je fais juste rajouter des choses, puis des fois poser des questions. Puis fait que des fois, j'y renvoie un chapitre, je dis, ben là, tout est parfait, tu sais, ben, je suis une de tes premières femmes. Fait que là,
Ah oh, oui.
c'est une
Ouais,
petite joke
c'est un
qu'on
peu comme ça
fait.
que ça se passe, nous autres
Ouais.
aussi. C'est que souvent, je vais lire son premier jet, puis je vais faire comme, oh, wow, là, tu as une idée, là, puis là, cette idée-là va me lancer sur autre chose. Je vais changer telle affaire parce que là, ton idée m'a comme allumé sur autre chose. Puis là, on embarque sur la rédaction du tome 3. Nous, le tome 2 est sorti le 3 novembre.
OK.
Puis là, on embarque sur la rédaction du tome 3 qui s'en vient. Puis pour Antise, oui, pour Antise, les dates, la date de sortie du tome 2, là,
Tome
c'est en
2
ce
le
moment.
15 novembre en librairie, tome 3 en mars 2022 et tome 4 en août 2022.
Le
C'est ça
tome
les
4
dates.
étant la grande finale?
Ce serait la grande finale.
Ce serait, c'est possible.
Oui. Bien, on avait parlé d'en faire 6. Là, pour
OK.
l'instant, on a écourté à 4. Fait qu'il reste à
OK.
voir si vraiment l'histoire va vouloir se terminer là ou si elle va vouloir se continuer. Parce qu'on avait beaucoup de matière pour continuer, mais on ne veut pas non plus comment on dit ça,
Étirer la sauce.
étirer la sauce pour juste pour l'étirer. On veut que ça reste intéressant là.
Oui, je comprends, tout à fait. En tout cas, à date, ça a l'air de bien aller si je regarde les critiques là, qu'on voit là, un peu partout sur les réseaux sociaux. Puis
Exact. Les gens
on
aiment beaucoup
va.
ça.
Ouais. Puis là, c'est le temps de les acheter, c'est le mois des morts. Fait que
Oui,
c'est
parce que
mon
la
cadeau de
page
Noël.
couverture du tome
Ah,
2
mon Dieu!
fait peur.
Ah oui, vraiment, vraiment, c'est pour ceux qui la voient pas, là, c'est le visage d'une femme avec comme plein de. C'est quoi les traces
Ouais.
noires? Il y a plein de traces
Ben,
noires dans son visage, le visage très blanc, des traces
oui, c'est ça.
noires,
Elle est
contraste de
très.
couleur.
Ben, dans le livre, là, vous allez voir, il y a. Tu sais, on meurt d'une certaine façon, donc le fantôme qui revient garde ces traces-là. Alors, elle
Ugh.
a eu une fin plutôt
Violente.
difficile et violente. Voilà.
Ouch. Alors, merci Julie, merci beaucoup d'avoir cassé la glace pour le
Ah!
balado.
Ben, ça me
Je suis
fait
bien contente
plaisir.
de
Merci,
te
Amélie.
recevoir. Et puis, on va chercher Antise et on se fait peur.
Merci, Amélie. Merci à bientôt.
Rencontrons maintenant Isabelle Larouche qui nous racontera toute une épopée qui a mené à l'écriture de son livre « Les loups au ruban rouge » publié aux éditions du Soleil de minuit.
Isabelle Larouche écrit depuis qu'elle a 8 ans quand même. Et puis, pour s'occuper, il suffit que d'un crayon ou de papier ou de son ordinateur, évidemment. D'un après-midi de pluie, pas quand il fait beau.
Non, je vais jouer dehors quand il fait beau.
Ah, c'est bon ça. Et de beaucoup d'imagination pour s'envoler, ça, je doute qu'elle en a beaucoup. C'est une grande voyageuse, une enseignante, une conteuse qui poursuit ses rêves tout en continuant d'écrire. Après avoir vécu au Nunavik, en Ontario, à Kanisatake, puis à Montréal, elle est maintenant établie à Saint-Eustache, où elle tisse des histoires inspirées de gens qu'elle croise ou d'endroits qu'elle visite. Isabelle, bonjour! Je suis vraiment contente de t'avoir avec moi aujourd'hui.
Bonsoir, moi aussi, je suis contente.
Oui! Alors aujourd'hui, on va parler de ton livre « Les loups au ruban rouge », mais on va parler aussi de plusieurs autres sujets. Mais pour commencer, j'aimerais ça que tu nous parles de ce livre-là qui est publié aux éditions Soleil de minuit.
Les éditions du Soleil de minuit, je les porte vraiment sur mon cœur parce que quand j'ai réalisé pour la première fois mon rêve de devenir une écrivaine, c'est les éditions du Soleil de minuit qui m'ont tendu la main. J'écris depuis que je suis toute petite, mais avant de publier pour la première fois, ça prend du temps, on ne sait pas trop comment faire. Alors, j'ai continué ma vie, j'écrivais des petits cahiers, des journaux intimes, toutes sortes de choses. Mm-hmm. Et j'ai eu la chance d'aller enseigner tout de suite après mon baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire au Nunavik, dans un village qui s'appelle Kagnirsualurtuak.
Wow. Et
ça sonne bien. Ça veut dire une grande, grande baie, parce qu'on est situé sur la baie d'Ongava. Alors, quand on imagine le Québec, on peut voir la carte du Québec et on voit comme une petite bouchée, comme si le Québec était un biscuit en forme de triangle et qu'en haut, il y a une petite bouchée qui a été enlevée, c'est la baie d'Ongava. Et on connaît Koudjouak parce que souvent, quand on écoute la météo, on nous dit « Ah, Koudjouak, il va faire moins 56! » Le Kagnirsualurtuak, c'est le seul petit village qui est à l'est de Koudjouak. Alors, c'est le seul village du Nunavik qui est à l'est de la baie d'Ongava. Et pour moi, c'était un rêve que je réalisais. Enfant, j'étais une grande lectrice. Et à l'âge de 8 ou 9 ans, j'avais lu un roman où ça se déroulait dans le Grand Nord, puis des romans de Michel Noël.
Mais oui, mais c'est ça que j'allais demander, c'était Michel Noël, oui.
Michel Noël, c'était mon papa. Vraiment, là, pour apprendre à écrire, tout ça, ça, il m'amenait à voyager, tout ça. Et quand je me suis retrouvée là, d'ailleurs, quand j'ai terminé mon baccalauréat en enseignement, c'était ma visée, je voulais aller travailler dans le Grand Nord. Alors, ça a été automatique pour moi. Et je me suis retrouvée là. Et ce petit village-là, j'y ai enseigné pendant une année et ça a marqué ma vie pour toujours.
Wow.
Et j'ai eu la chance plusieurs fois dans ma vie, les années après qui ont suivi, de retourner à Kagnirsualurtuak. Okay. Je suis retournée au Nunavik dans les 14 communautés du Grand Nord du Québec en tant que conteuse pour raconter des histoires, pour partager mon amour des histoires et l'amour de l'histoire orale, qu'on n'a pas besoin d'écrire nécessairement, que les histoires, c'est d'abord quelque chose qu'on entend, quelque chose que nos parents nous ont raconté, que nos grands-parents nous ont raconté, et puis que moi, j'allais rencontrer ces jeunes-là de les écoles primaires et secondaires partout dans les 14 communautés du Nunavik. Et j'ai commencé cette grande tournée-là à Kagnirsualurtuak.
Ça, c'était avant d'écrire ou c'était...
C'était des années plus tard.
Des années plus tard.
Et je suis retournée ensuite, juste avant la pandémie.
Oh!
J'ai toujours aimé, moi, retourner à Kagnirsualurtuak. C'est comme un village où je suis née en tant qu'auteur.
Ouais.
Et là, je suis retournée juste avant la pandémie. C'était une résidence d'écrivaine qui avait été subventionnée par le programme Culture à l'école. Oh. Une école accueille un artiste. Évidemment, il a dû faire des petites modifications parce qu'il faut y aller en avion, c'est beaucoup plus loin. Et là, j'ai passé tout un mois là-bas à vivre encore dans ce beau village qui est situé sur la baie d'Ongava, là où la rencontre de la rivière Georges vient justement couler dans cette baie-là. Et travailler avec une de mes anciennes élèves qui est devenue la directrice de l'école. Et là, j'avais proposé un projet avec les 5e et 6e années au primaire pour écrire une histoire avec toute l'expertise que j'avais apprise au fil des années. Moi, je venais rapporter ça à ce village-là qui m'avait fait naître en tant qu'auteur. Et je voulais écrire une histoire avec eux. Je voulais les amener dans tout le processus d'écriture d'un livre. Alors, ce qu'on a fait, c'est que les histoires, ben, moi, je les avais apprises avec mon grand-père, ma grand-mère. Alors, j'ai dit, on va faire venir Ananatsiak et Atatatsiak. Ça veut dire grand-maman et grand-papa qui sont venus à l'école. On a posé des questions. On est allé chercher des petites bribes d'histoire, des petites inspirations. Et c'est à partir de ça qu'on a écrit une histoire.
Hey, ça devait être intéressant, ça. Oh, wow, quelle richesse! C'est vraiment un atelier riche.
Oui, le grand-papa, il nous racontait, quand il était jeune, il avait chassé un premier ours polaire.
Et là, là.
Mais c'était étonnant, parce que ce grand-papa-là, il était tout petit, tout ratatiné, il avait plus de dents dans la bouche. Et puis, c'était étonnant de croire que cet homme-là, tout petit, avait chassé un ours polaire qui faisait plus de 2 mètres de grandeur.
Wow. Oh, c'est énorme, ça!
Une tonne de poids, et qu'il était très, très fier.
Ça doit.
La grand-maman nous avait raconté quand elle était toute petite et qu'elle vivait dans des igloos et qu'elle avait son amaotik, qui est un manteau qui a une grande poche sur le dos, comme un capuchon, dans lequel on met les bébés. On n'a pas de poussette dans le Grand Nord. Alors, tu mets le bébé dans ton capuchon. Alors, ils ont créé un manteau qui s'appelle amaotik. Puis, tu mets le petit bébé dans ton dos, puis une petite place pour les pieds, puis le grand capuchon, tu mets par-dessus la tête du bébé et par-dessus ta tête à toi. Mais elle portait des... Elle était toute petite quand elle était toute petite, évidemment.
Oui.
Et elle nous racontait qu'elle mettait des bébés chiens, des petits chiens sur sa maman. Alors, toutes ces idées-là, on a recueilli ça et on a discuté avec les classes de 5e, 6e année. C'était une seule classe en français. Parce que nous, Navic, les écoles, on apprend l'inuktitut, qui est la langue maternelle, de la maternelle jusqu'à la 3e année. En 3e année, on décide si on veut continuer nos études en français ou en anglais.
Okay.
Le français, ils disent « oui, oui, titut
okay. ».
Et l'anglais, c'est le « halona titut
okay. ».
Alors, ils continuent, mais ils continuent d'avoir des classes de culture et des classes d'inuktitut aussi. Mais, et là, alors mes élèves, à ce moment-là, j'avais les élèves de français et on a écrit l'histoire et on a illustré cette histoire-là pendant tout un mois.
Wow.
On a eu une graphiste qui est venue nous rejoindre après 2 semaines. Pour elle, c'était un rêve. Elle n'avait jamais vécu au Nunavik, elle n'avait jamais visité.
Okay.
Alors, Marie Blanchard, qui est une graphiste et une éditrice de Sainte-Adèle dans les Laurentides, qui a réalisé son rêve en venant nous rejoindre. Moi, j'avais déjà fait un petit peu le travail avec les élèves. Et elle les a guidés pour illustrer le livre.
Wow.
Ces enfants-là ont illustré avec leur manière. Elle leur a montré aussi comment faire de l'aquarelle parce que ça avait touché la glace, le ciel, les couleurs.
Mais oui.
Elle est inspirée par tout ça. Alors, elle les a inspirés, elle les a fait travailler avec l'aquarelle. Puis, tout ça, des petits trucs qu'on peut faire pour donner des textures. Et les enfants ont adoré.
Mais oui.
Ils ont illustré l'histoire que nous avions écrite. Et c'est devenu un vrai livre.
Wow, vous devez être content.
Mais oui, Danger sur la banquise.
Danger sur la banquise.
Alors, ça a été illustré et écrit par les élèves de 5e et 6e année.
Il est vraiment beau.
De l'école Oulouriac. L'école Oulouriac. Oulouriac, ça veut dire une étoile. L'école Oulouriac de Kanyersualurtuak. Alors, c'est en français et en inuktitut.
OK.
Alors, on a vraiment deux langues qui sont mises en valeur. Et c'est un vrai livre. Alors, les élèves sont très, très, très fiers.
Les éditions Soleil de minuit aussi?
Non, ça, c'est éditions Le Grand Élan. Parce que c'était éditions de Marie Blanchard qui est
éditrice
et graphiste. Mais quand j'étais là-bas, eh bien, j'avais non seulement l'opportunité de faire ce beau projet avec les élèves, Mais le soir, je n'avais pas de télévision, pas beaucoup d'Internet. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai écrit!
Les loups au ruban rouge!
Et voilà!
Oui!
Les loups au ruban rouge! Et ça, c'est un livre que j'ai écrit parce qu'au moment où j'étais au Nunavik, il se passe beaucoup de choses au Nunavik. Hein? Oui, c'est pas juste un village éloigné où il ne se passe rien, là. Il y avait un grand tournoi de toutes les équipes de hockey des 14 communautés du Nunavik.
Wow!
Nunavik étant la région au nord du Québec. À ne pas confondre avec le Nunavut, qui est un territoire canadien.
Ouais.
Souvent, les gens font la...
Oui, c'est vrai.
Mais Nunavik, c'est le nord du Québec, ce qu'on appelait avant le Grand Nord.
Le Grand Nord.
On appelait ça le Nouveau-Québec aussi. Et voilà, donc, et là, j'ai vu des équipes de hockey de Pouvournituk, des équipes de hockey de Kanyersuk, des équipes de hockey de Koudjouarapik et de tous les villages qu'il y a là-bas qui venaient s'affronter avec l'équipe de Kanyersualurjuak qui s'appelle les Amaruit. Oui. Amaruit, ça veut dire les loups.
Ah, voilà!
Ouais, Amaruit, Amarok, un loup. Amaruit, beaucoup de loups.
Les loups.
Les loups. Et là, c'était vraiment... Parce que tout le village était là. C'était vraiment extraordinaire. Parce que le hockey, évidemment, dans un village nordique, la glace, le hockey, c'est un sport très important.
Mm-hmm. C'est des enfants de quel âge?
C'est des enfants de l'âge du niveau secondaire.
OK.
Mais très, très jeunes. Déjà au primaire, le professeur, il y a un professeur de sport qui vient leur montrer comment jouer au hockey. C'est un sport qui est très, très prisé.
OK.
Alors, j'ai vécu pendant toutes ces semaines-là et pendant quelques semaines, on avait les combats, les compétitions. Et là, je me suis dit, le hockey, j'avais déjà entendu parler que les communautés autochtones qui voyagent et qui vont rencontrer et s'affronter avec des communautés qui ne sont pas autochtones.
Mm-hmm.
Comme les Amaruit sont souvent venus jouer à Saint-Eustache,
la ville où
j'habite maintenant.
Okay.
Et bon, ils n'ont pas eu de problème, mais j'avais entendu dire que des fois ça arrivait que des communautés autochtones, quand ils rencontraient une autre équipe qui n'était pas autochtone, il y avait des situations qui étaient fâcheuses, des situations qu'on pouvait dire d'intimidation, où il y avait des mots pas gentils qui pouvaient être prononcés. Et même des fois, dans les estrades, on avait des parents qui n'étaient pas gentils.
Ouais.
Des fois, quand c'est des équipes qui ne sont pas autochtones. Mais là,
Mais là, c'était...
Ça m'a fait mal. Je me suis dit, ces enfants-là qui sont si beaux, que c'est si important pour eux, ils ont le même amour du même sport, on ne devrait pas voir une différence.
En fait, ça devrait juste nous lier plus encore. C'est une passion commune.
Exactement. Tout à fait. Et là, j'avais fait une petite recherche et j'avais entendu parler de communautés en Nouvelle-Écosse qui avaient vécu de l'intimidation sur la glace.
Oh.
Des Malécites, des Mi'kmaq, qui ont joué avec des autres équipes qui n'étaient pas autochtones et qui avaient eu des mots vraiment méchants qui avaient été prononcés et que ça avait été vraiment difficile. J'avais entendu la même chose avec une équipe de hockey de Garnawagé, qui est une équipe Mohawk au sud de Montréal, qui avait vécu aussi des difficultés d'intimidation sur la glace.
Okay.
Ça m'a fait mal.
Ouais.
Alors, imaginez cette histoire qui s'appelle « Les loups au ruban rouge ». Parce que le ruban rouge est devenu un symbole que ces équipes autochtones ont fait sur leur bâton de hockey. C'est qu'ils ont pris un ruban rouge, comme un duct tape, pour montrer qu'on est autochtones et que vous devez nous respecter.
On est fiers.
On a le même amour, on aime le même sport, on a les mêmes référents, on a les mêmes vedettes. Les mêmes personnes qui nous inspirent, alors pourquoi est-ce qu'on devrait faire une différence parce qu'on vient d'un village différent ou peut-être d'une culture différente ou d'une langue différente? Le sport n'est-il pas quelque chose de rassembleur?
Ben oui, tout à fait. C'est un, je vois qu'il y a 24 pages, donc c'est un album?
Oui,
c'est un livre illustré. Il s'adresse aux 6 ans et plus?
Oui. Ça a été illustré par Brandy Woods, qui a illustré plusieurs autres livres aux éditions du Soleil de Minuit, dont un petit livre qui est tout à fait mignon, qui s'appelle « Perdu au Nunavik », un petit toutou qui avait été perdu.
Okay. Je l'ai déjà vu.
Moi, j'avais reconnu cette illustratrice à ce moment-là.
Okay.
Et c'est l'éditrice qui m'a jumelée avec cette illustratrice-là, et j'ai trouvé qu'elle a fait un travail magnifique parce qu'elle est allée vraiment chercher l'émotion dans les visages des joueurs de l'équipe des Amaruites. Parce mm-hmm. qu'on a vraiment été... j'ai écrit cette histoire-là quand j'étais à Cagnères-sous-Alourdes-Jouac. Alors, on va vraiment reconnaître l'école.
Il y avait des photos, dans le fond.
Oui, elle s'est basée sur les photos et elle s'est basée aussi sur les personnages. La première fois qu'ils vont aussi à Montréal, parce que c'est impressionnant quand on vit dans un endroit éloigné, on arrive à Montréal ou à Saint-Eustache pour vivre un match, mais on se retrouve peut-être sur une glace qui est un milieu familier, mais sinon, tout l'environnement, le voyage, déjà, c'est intimidant pour ces équipes-là. Et elle a réussi vraiment à transmettre cette émotion-là. Et aussi, évidemment, le problème qui arrive sur la glace.
Oui, oui.
Et la manière que c'est traité. Et le fait aussi que l'équipe, la marouite, les loups, c'est un animal qui vit en meute, mm-hmm. qui protège les siens. Les plus forts, les plus faibles ont fait partie d'une meute. Et les amarouites, ils se tiennent serrés. Tricoté serré, comme on dit au Québec. Hein?
Oui.
Alors, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée comme, mm-hmm. comme appellation pour le groupe, les Amaruites, pour l'équipe, mais aussi pour le fait de pouvoir combattre ensemble cette intimidation-là. Et je pense que ça a été vraiment l'inspiration qui m'a amenée à écrire
ça. C'est vraiment un beau sujet. J'aurais peut-être une dernière question avant de terminer. Oui. C'est déjà presque tout, malheureusement. J'en prendrais plus. Mais je me questionnais, tu as travaillé avec Michel Noël.
Oui.
Tu disais que c'était comme ton papa là, quand tu étais petite.
Un papa spirituel.
Un papa spirituel. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec quelqu'un qu'on admire? Parce que moi, ça m'est arrivé aussi avec Michel Lavoie, c'est la même chose chez Mandouès. Moi, je lui avais lu tous ses livres aussi. Quand il m'a accepté, je n'en revenais même pas qu'il me parle. Fait que je me demandais comment tu avais vécu ça, de travailler.
J'ai eu la chance de le rencontrer dans les salons du livre, Michel Noël, et aussi dans des événements de contes, parce que c'était vraiment un conteur.
Ouais.
Quelqu'un qui avait la langue orale à cœur. Hein? C'était vraiment de raconter les histoires. Et c'est ce qui m'a touchée, moi, dans ma plus jeune enfance. Et quand je l'ai rencontré la première fois, j'étais déjà auteur, j'avais déjà
pu rencontrer
dans un contexte de salon du livre. Et j'étais intimidée, j'étais impressionnée par la grandeur de cet homme-là. Et j'avais envie de marcher dans son sentier. J'avais envie de marcher à côté de lui ou de fouler un peu ses pas, mais il m'a tellement inspirée parce que moi aussi, j'ai grandi dans un milieu qui est très, très près du milieu autochtone dès ma plus jeune enfance. Mm-hmm. Alors, dès ma plus jeune enfance, j'étais inspirée, j'étais à l'essence de qu'est-ce que c'est la vie autochtone, je savais les problématiques. Je connaissais déjà très, très jeune quelles sont les problématiques des communautés autochtones. Et je pense que Michel Noël a été un très, très grand défenseur des communautés autochtones. Il a été un des premiers à créer des ponts entre les communautés non autochtones et les autres. Et je parle au sens large parce que lui, c'était vraiment sa communauté dans laquelle il a grandi, mm-hmm. à Saint-Michel-des-Saints. Mais ça rejoignait toutes les communautés parce que c'est la même problématique. Alors, les loups au ruban rouge, c'est un petit peu, je pourrais dire que c'est un cadeau un peu ou une inspiration de créer un pont, de dire que les intimidations que les Autochtones peuvent vivre dans des différents contextes, comme sur la glace ou dans la vie de tous les jours, les villages qui sont mitoyens. Hein. Moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je sais qu'à Robertval, Machteyats, il y a eu des frictions, il y a souvent des frictions entre Oka et Ganesetage, où j'enseigne maintenant. Je trouve qu'on doit créer ces ponts-là. Et Michel Noël a été un des premiers architectes de ces ponts-là.
Mm-hmm. Absolument. Mais merci Isabelle, c'est déjà tout. C'est déjà tout. On pourra peut-être éventuellement se reparler, mais je sens qu'on pourrait. On pourrait discuter longtemps encore. Je vous invite à vous procurer son livre, là, tout à fait magnifique. Elle me montrait des images, parce que elle me montrait des images pendant qu'elle vous parlait, là, et c'est vraiment, vraiment magnifique. Alors, je vous invite à aller vous procurer Les loups au ruban rouge. Merci beaucoup, Isabelle. À une prochaine fois.
Nakourmé Maria Loc. Merci beaucoup, Annie Noctitut. Nakourmé Maria Loc.
Ah, c'est magnifique. Merci.
Merci d'avoir été là. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Dans le prochain, nous rencontrerons Maryse Pagé et Cynthia Lissa Dubé. C'est donc un rendez-vous!